Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Bah, moi, j'adore Alan Met parce que j'adore ses dessins. J'adore la façon où il écrit son histoire. Ça nous fait un peu rentrer dans la peau du personnage. Et j'adore ça. Voilà.
La nuit venue, le chat orange prenait son courage à deux mains et s'en allait à la chasse. On dit que la nuit, tous les chats sont gris. Le chat orange, lui, restait orange. Les souris et les oiseaux du bois le voyaient venir à des kilomètres. Ils étaient tous morts de rire. C'est un extrait du Chat orange d'Alan Metz, son premier album dessiné qui date de 1991. Alan Metz, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes auteur et illustrateur jeunesse. Vous dessinez des personnages à tête d'animaux à qui il arrive tout un tas d'aventures, tantôt quotidiennes, tantôt extraordinaires, mais toujours vivace, un peu décalé et très humoristique. Vous écrivez et dessinez des histoires à lire et à faire lire. Des histoires pour les enfants de 2 ans, je me suis dit, à quel âge exactement ?
Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite de péremption. En fait, c'est même pas 7 à 77 ans, c'est de 2 à, voilà, je sais pas, maintenant l'âge... Alors, là, je limite recule de plus en plus. Donc.
Mais ça commence vraiment tout petit. J'ai une amie qui a une fille qui n'a pas 2 ans et elle me dit connaître votre album Crotte de nez par cœur. C'est quand même incroyable.
Mais oui, oui bah, ça me trouble, ça me touche aussi.
Ouais, je trouve ça vraiment très très jeune. C'est génial de pouvoir s'adresser aussi jeunes. Quand vous dessinez, est-ce que vous pensez à un enfant en particulier ou plutôt à vous quand vous étiez enfant ?
Alors en fait, moi quand je fais des livres, je pense un petit peu à moi quand j'étais enfant. Parce qu'en fait, il y a pas mal de livres qui sont souvent des souvenirs d'enfance, un peu fictionnels. Hein. C'est-à-dire que je mens beaucoup quand je raconte une histoire, mais je m'inspire un peu de la réalité. Et puis, et quelquefois, y a aussi les enfants que je rencontre, les adultes aussi, qui sont des grands enfants.
Et qui tout m'inspire. Qui sont des réservoirs d'histoire aussi ?
Les adultes, ah oui, bien sûr. Mais en fait, moi, à chaque fois que je vois un adulte, je vois l'enfant qui est en lui. Alors, c'est un petit peu un voyage dans le temps quand on s'intéresse à l'enfance, finalement, on s'aperçoit qu'on est aussi des enfants. On a cette part, évidemment, d'enfance qu'on garde.
Vous lui disiez quoi, vous, comme histoire, quand vous étiez enfant ?
Ah bah alors moi,
vous êtes de la génération du père Castor ou
oui,
vous
voilà,
êtes trop jeune ?
Oui, voilà, c'est ça. Le père Castor. Ouais. Il n'y avait que ça.
Il n'y avait que ça,
oui,
à
que
l'époque ?
Le père Castor, oui. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis né au début des années 60. Et donc, finalement, tous les livres que j'ai lus et que j'ai aimés, je les ai lus plus tard. Je les ai lus quand j'avais 18 ans, mais quand j'avais 7-8 ans, je n'ai pas lu de livres de l'école des loisirs. C'était vraiment les débuts de l'école des loisirs, en fait, en France, et moi, j'en ai pas profité, en fait. Donc, j'ai lu que le père Castor. J'ai eu des choses qui m'ont plu. La vache orange, on en parlait, justement, que j'avais bien aimé. Mais en fait, je n'ai pas été tellement emballé par les albums, moi, quand j'étais enfant. En fait, je fais des albums parce que quand j'avais 18 ans, j'ai fait une formation pour être moniteur de colonies de vacances. Et puis, il y a un bibliothécaire qui est arrivé avec Max et Maxi Monstre, Jean Zaralda, tous ces bouquins.
C'était déjà, le milieu s'était déjà élargi de pas mal de créations ?
Oui, enfin, c'est tous les livres qui sont sortis justement dans les années, fin des années 60, début des années 70. Donc moi j'avais 18 ans, c'était la fin des années 70 en fait, hein, c'était en 78.
Et vous 79. Étiez déjà plus un enfant vous ?
Oui, mais justement c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait j'étais un adolescent ou un jeune adulte. Et j'ai lu par exemple Jean de Zeralda et ça m'a complètement retourné comme une vieille chaussette. Enfin, c'est-à-dire que vraiment ça a été un moment très important dans ma vie.
Ah oui, et qu'est-ce qui vous a marqué ? Vous vous souvenez ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans les albums de ces années-là, c'était la liberté de ton. Finalement, on avait vraiment l'impression qu'on ouvrait une porte et puis alors, tout s'engouffrait, on pouvait raconter n'importe quoi.
Tout était possible.
Voilà, exactement, tout était possible. Et avec une économie de moyens formidable. L'album, c'est génial, on raconte une histoire avec peu d'images et peu de textes, et tout de suite... Dès la première image, les premiers mots, on est dans un univers qui est celui de l'album. Et par exemple, quand on tourne les pages de Max et Maxi Monstre, eh bien, on est tout de suite dans un univers qui est formidable, quoi, graphique. Moi, c'était par exemple le lit qui m'a vraiment marqué, c'est le géant de Zeralda. Parce qu'en fait, il y a une image à la fin où, en fait, finalement, c'est un conte en apparence très gentil. L'ogre épouse évidemment la jeune fille, ça finit très bien. À part que les enfants, donc ils ont de nombreux enfants, mais il y a un petit garçon qui est là, et en fait, dans son dos, il a un couteau, une fourchette cachée, et il regarde le dernier bébé qui.
Il est prêt à bondir.
Voilà, on se dit qu'il va peut-être le manger, enfin bon, bref, et cet esprit.
De rebondissement aussi.
Oui, oui.
De péripéties.
Voilà, exactement. Et puis en fait, finalement, quand on lit le livre, en fait, finalement, on peut se raconter plein d'histoires différentes, des histoires pas toujours avouables, mais ça fait rien, c'est des choses, au contraire, qui sont intéressantes. Quand on ouvre un livre, justement, qu'il n'y ait pas que tout soit pas mâché, en fait, que le lecteur interprète à sa façon. Et un album, ça permet ça, justement, cette économie de moyens, de texte et d'images, permet à l'enfant, à l'adulte, de se raconter des histoires qui ne sont pas forcément les mêmes, mais c'est pas très grave.
C'est effectivement ce qui frappe quand on arrive dans vos albums, c'est une vraie forme de simplicité. En tout cas, le dessin, c'est une efficacité très claire. Les aplats de couleurs derrière aussi, on sent qu'il y a la recherche d'une simplicité, d'aller droit au but.
Oui, oui, parce qu'en fait, en effet, l'album permet de simplifier vraiment son histoire, son texte et son image, mais au service d'une histoire qui est qui doit être la plus vivante possible. Et donc, qui dit vivant, dit complexe, évidemment. Donc, et cette espèce de paradoxe est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va raconter une histoire, en effet, avec des images qui sont très stylisées, mais qui doivent être vivantes, parce qu'on doit sentir la vie du personnage, mais qui sont au service, évidemment, d'une histoire. Et cette histoire, elle doit raconter quelque chose. Ce n'est pas une histoire creuse et bête.
On dit plus de choses avec des formes simples, en fait.
Ça permet, en effet, je pense, de raconter des choses complexes. En effet, d'utiliser des personnages assez abstraits, une absence pratiquement... Enfin, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je fais un décor, il est au service de l'histoire. Donc, il va y avoir peut-être quelques éléments, mais ces éléments vont permettre la lecture de l'histoire. Et c'est vrai que cette économie de moyens, je pense, permet de raconter des choses compliquées. Mmh. C'est un peu paradoxal, mais
je pense que ça fonctionne. Oui, surtout quand on s'adresse aux enfants.
Voilà.
Et il mange tes crottes de nez.
Ah ouais ?
Oui, devant Julie. En fait, c'est son amoureuse.
Certains de vos récits sont donc autobiographiques, comme l'album « Mes lunettes de rêve », qui dessine l'histoire d'un éléphant qui ne voit pas grand-chose à l'école, mais qui refuse en fait de porter les lunettes que sa mère lui a fait fabriquer. Qu'est-ce qu'elle dit, cette histoire, de votre vision de l'existence ? Je vous vois en face de moi, vous avez ces lunettes rondes, quasiment les mêmes que l'éléphant refuse de porter.
Oui, parce qu'en fait, moi, je voulais des lunettes rondes, en fait, quand j'avais l'âge de l'éléphant. Mais, j'ai un petit peu transformé les choses et on lui met des lunettes rondes, parce que maintenant, c'est totalement ridicule, les lunettes rondes. En fait, tout le monde en a, d'ailleurs, j'en ai. Mais à l'époque, c'était des lunettes carrées, marron, affreuses, en fait, celles qu'on m'a fait mettre. Et puis, évidemment, je les ai cassées le premier jour d'école. Mes parents ont toujours cru que j'avais fait exprès.
Vous vouliez des lunettes rondes comme John Lennon, quoi.
Oui, c'est exactement ça, oui. Oui, parce qu'en fait, quand j'avais 7-8 ans, je suis descendu en bas de chez moi. Il y avait encore c'était une époque merveilleuse où il y avait un disquaire. J'habitais en banlieue parisienne, il y avait un disquaire qui était en bas de chez moi. Et j'ai acheté Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Excusez-moi pour l'accent, parce que c'est horrible. Voilà, exactement. Et donc, c'était un grand moment dans ma vie. Voilà, avec mes billets.
Donc en fait, à 18 ans, vous découvrez à la fois la littérature jeunesse et la musique ?
Ah non, mais là, j'avais 8 ans.
Ah non, 8 ans. Ah pardon, j'ai entendu 18
en fait,
ans.
À 8 ans, j'ai découvert les Beatles et à 18 ans, j'ai découvert les albums pour enfants. En fait, j'étais un peu à l'envers, en fait.
Et voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes pas mis tout de suite à dessiner et à écrire, puisque vous avez fait des études, je crois, de philosophie et de cinéma ?
Pourquoi j'ai pas dessiné tout de suite ? En fait, j'étais dans une famille où on dessinait. Et c'était pas très très bien vu, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'était pas très bien vu, mais c'était un peu compliqué dans ma famille, le rapport entre le côté artistique et le côté ingénieur, on va dire. Donc en fait,
il fallait d'abord gagner sa vie, voilà, pour ensuite éventuellement avoir un hobby.
Que je fasse des études sérieuses, que je n'ai pas fait d'ailleurs, enfin que j'ai abandonné assez vite, parce que j'ai commencé par faire médecine.
Et, oui, aussi, médecine
philo. Après, j'ai fait l'école normale, en même temps que j'ai fait l'école normale, j'ai fait mes études de philo, après j'ai fait des études de cinéma. Donc là, ça a passé à peu près, quoi, en fait, quand on sait ce genre de choses. Mais par exemple, quand j'ai laissé tomber médecine, ça a été assez mal vu.
Un soulagement.
Mais un soulagement aussi, parce que je déteste la vue du sang. Enfin, bon, ouais.
C'est quoi, Alan Metz, un bon personnage pour un livre pour enfants? C'est quoi ses caractéristiques?
Alors, un bon personnage pour un livre pour enfants, en fait, je pense que c'est un personnage qu'on n'attend pas. C'est quelque chose, c'est un personnage, parce qu'en fait finalement les enfants, on croit les connaître et puis tout d'un coup ils vont sortir quelque chose d'extraordinaire. Là par exemple ce matin, on a inventé une petite histoire.
Oui, vous étiez en intervention ici à Diolfi.
Exactement, et le héros principal c'est un lion avec une salade sur la tête. Donc ça il fallait quand même le trouver. Un lion qui a un problème parce qu'il a une salade sur la tête. Bon. Et ça, c'est un enfant qui a trouvé ça. Enfin, je veux dire. Et ça, c'est un bon personnage pour d'album, en effet. Un lion avec une salade sur la tête.
C'est quelque chose qui surprend, en fait.
Oui, voilà. Moi, par exemple, je n'avais jamais pensé qu'un lion pouvait avoir une salade sur la tête. Enfin, bon. Donc, donc voilà, je trouve que c'est un bon personnage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas attendu. Ce n'est pas. Un petit personnage bien sympathique. Non, c'est quelque chose d'étonnant, enfin, qui sort de l'ordinaire. Enfin, pour moi, hein, parce qu'en fait, quand on regarde les livres pour enfants, il y a beaucoup de personnages, évidemment, qui sont totalement transparents. Mais pour moi, au contraire, un bon personnage, c'est un personnage qui... qu'on n'a jamais vu dans la rue. Et pourtant, si on le croisait, on a envie de lui serrer la main, voire de le prendre dans ses bras, parce qu'il est terriblement humain.
C'était bien. J'aimais bien quand le cochon disait non à ses frères. J'aimais bien aussi quand le grand méchant loup arrivait pour les manger.
Ça vous donne des idées, ces interventions avec les enfants? Comment elles vous viennent, les idées? Comment vous vous nourrissez?
Si je savais comment venaient mes idées, je ferais plus de livres. Donc
c'est vous en faites déjà pas mal?
Non, j'en fais moins maintenant, en vieillissant. Oui, nettement, je fais beaucoup moins de livres, j'ai moins d'idées, en fait, tout simplement. Mais rencontrer des enfants, ça me donne des idées, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en effet, quand on a un enfant qui vous dit « Tiens, j'aimerais bien raconter l'histoire d'une souris noire qui crache du feu », avec un slip léopard, parce que ça aussi c'était une invention de ce matin, et ben tout de suite, oui, ça interpelle. On se dit, ah oui, tiens, je raconterai bien cette histoire. Bon, après, je sais pas si je saurais faire un livre au niveau de vraiment, enfin, bref, publiable quoi. Mais je trouve que déjà le point de départ est assez drôle.
Expliquons donc à la Metz que vous êtes ici sur le territoire de Diolfi-Bourdeaux dans le cadre d'une résidence proposée par la DRAC et ce depuis le mois de janvier. Cette résidence orchestrée par la communauté de communes de Diolfi-Bourdeaux et aujourd'hui vous avez participé à l'ouverture de Partir en Livre, une manifestation organisée jusqu'au 27 juillet à Diolfi, le Poët-Laval et la Bégutte de Mazinc par l'association Mômes et Merveilles. Et nous sommes aussi avec Nadia de Mômes et Merveilles ici. C'était quoi le but de cette résidence sur le territoire? Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, je pense que le but de cette résidence, c'était de planter des petites graines, c'est-à-dire rencontrer des gens, quel que soit leur âge d'ailleurs. En fait, finalement, moi, je vis pour... pour moi, vraiment, un des buts dans la vie, c'est de permettre, non pas aux gens de lire des histoires intéressantes, mais d'être un peu au service de la lecture, en fait. Mais ça peut être aussi l'écriture, ça peut être le dessin. Et c'est vrai que rencontrer des enfants, des adultes sur le territoire, c'est planter des petites graines.
Et, c'est donner aussi aux...
Et leur dire que c'est possible, en effet, on peut écrire une histoire sur un coin de table, quel que soit son âge. Et ça, c'est marrant.
Ça doit créer des vocations, ça?
Oui, j'espère. Enfin, le but est là, bien sûr.
Des vocations de lecteur, mais aussi des vocations de dessinateur.
Voilà, exactement. Des vocations de lecteur, bien sûr. Enfin, parce que je pense que le livre est en péril. Des vocations de dessinateur, des vocations d'écrivain. pour le théâtre, pour le cinéma, pour l'album.
Ces rencontres, voilà. Ça peut aussi changer, modifier votre façon d'écrire les histoires ?
Oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre des enfants, eh bien, en fait, j'essaye d'être dans l'instant. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être dans l'instant présent. Et du coup, évidemment, je change. Je ne suis plus tout à fait le même. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Parce que je me mets complètement au service des enfants. Enfin, j'essaye en tout cas. Et du coup, bah, je dessine, je réfléchis à ce qu'ils peuvent me dire. Parce que là, on a inventé une histoire, donc il fallait dessiner pour fixer un petit peu l'attention sur des personnages, pour qu'ils puissent les voir. Et puis en même temps, essayer de collecter finalement toutes leurs idées qui étaient hors du commun, en fait, faut me dire ce qu'il y a.
Hors du commun des mortels. Vos personnages, vous, ce sont des personnages anthropomorphes, c'est ça, hein, je crois qu'on dit, des humains à tête d'animaux.
Oui, c'est ça, on va dire abstrait. Oui,
un peu comme des divinités hindoues, moi j'avais
Je sais pas, non, je suis plutôt du genre athée, moi personnellement. Ouais. Mais...
mais d'être dans un bestiaire, en fait.
Oui.
Pourquoi ce choix, c'est plus facile pour les enfants de se projeter dans l'histoire sans crainte lorsque ce sont des animaux, ou c'est une autre idée que...
Non, je pense tout simplement. Oui, c'est vrai, ça c'est totalement vrai. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Crotte de nez, et c'est l'histoire d'un petit cochon.
Alors, vous aimez beaucoup les cochons et les loups.
Oui, mais en fait, c'est un petit garçon. Okay. Mais c'est vrai que si j'avais fait un petit garçon qui mange ses crottes de nez, bref, l'histoire n'aurait pas été la même. Elle aurait été dramatique, elle aurait été peut-être même totalement horrible, même si elle est un peu dégoûtante, faut me dire ce qu'il y a.
Un petit peu dégoûtante, quand même.
Mais
très
un
drôle.
Petit cochon, ça permet de mettre de la distance. Ça permet à une petite fille de s'identifier à un petit cochon. Voilà. Donc, en effet, on raconte des histoires. Et quelquefois, l'animal anthropomorphique permet de raconter des choses avec un peu plus de distance. Il y a un côté un peu plus universel, en fait, tout simplement. Bon, je ne suis pas le premier à utiliser l'animal
évidemment.
Pour ça. Hein.
Mais vous avez quand même une forte appétence pour les loups et les cochons, il me semble. C'est pour rester dans la tradition un peu ou...
En fait, le cochon, de toute façon, le cochon, il est tellement humain, bien sûr, c'est génial. Le cochon, c'est un homme. Donc, et le loup, c'est aussi un homme, c'est l'homme méchant, et il est là aussi au fond de nous, hein, de nous tous, en fait.
C'est un archétype partagé par tout le monde.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on a eu peur du loup, et en même temps, on peut être le loup. On peut être le loup parce que tout d'un coup, on est en colère, ou je sais pas, on est mal réveillé, on a mal dormi, enfin bref, il y a un tas de raisons.
Nadia, peut-être un petit mot sur ces rencontres Partir en livre qui débutent aujourd'hui jusqu'au 27 juillet. Alan disait que l'idée, c'était de donner envie de lire et de créer des vocations de lecteur. C'est aussi votre idée quand vous organisez ça à Mômes et Merveilles ?
Oui, alors avec les exemples là dont parlait Alan, on se rend bien compte que le livre, le dessin ou l'écriture, ça permet vraiment à l'enfant ou à l'adulte d'imaginer, de déployer une pensée qui est riche, qui permet de tout inventer parce que tout est possible dans le livre et dans l'écrit. Et c'est ça qui est magique quand on vit des rencontres comme ce matin, c'est de voir que les enfants, ils ont ce goût de l'invention et ils ont ce goût des histoires. Donc le but de partir en livre, c'est vraiment d'aller à leur rencontre et de leur montrer que là où ils habitent, là où ils vivent, on peut amener cette autre dimension au quotidien avec le livre. Et c'est pour ça que durant les prochains jours, on va se déplacer sur le territoire pour aller à la rencontre de ces enfants, les écouter, puis leur raconter quelques histoires.
Alan Metz, pour finir, votre prochaine histoire, c'est quoi ?
Alors, d'habitude, j'en parle jamais des prochaines histoires.
Justement, je me suis dit que peut-être aujourd'hui. ou une prochaine histoire.
Oui, une prochaine histoire. Bah, c'est l'histoire d'un cochon, évidemment.
Ah, bah voilà.
Mais il est tout noir, celui-là.
Ah, d'accord. Merci Nadia, merci Alan Metz. On vous retrouve bientôt, j'espère que vous reviendrez nous voir par ici. Bel été à tous les deux et ne mangez pas trop vos crottes de nez.
Oui, on va essayer.
J'ai trouvé que c'était marrant, l'histoire. En plus, c'est pas souvent qu'on écoute des histoires comme ça. Avec un parapluie et on saute d'une falaise, c'était marrant. J'ai bien aimé.
Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.